Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et puis avec le plaisir de retrouver Monsieur Pradalier. Bonjour Monsieur Pradalier.
Bonjour Sébastien.
Alors on vous retrouve toujours sur ce magnifique petit livre qui nous raconte un événement exceptionnel. 1096, consécration de l'hôtel de Saint-Cernin par le pape Urbain II à Toulouse. Et aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus peut-être au contexte de... cet événement.
Et oui, parce que dire que le pape Urbain II est venu à Toulouse pour consacrer Saint-Cernin, c'est juste, mais le pape est venu, il n'est pas venu que pour ça. Il est venu pour faire un périple, mais que vous allez nous raconter.
Oui.
Depuis Clermont. Clermont.
Il passe à Clermont, oui, se passe un événement fondamental qui est d'ailleurs étudié dans un livre de la même collection qui est de Marie Saudan, qui s'intitule 1095, l'appel de Clermont, l'appel d'Urbain II.
Et dont on mettra les références sur le site internet de l'émission.
Parfait. Donc, il vient d'abord dans un contexte bien particulier, il y a un antipape à Rome. Et donc, il ne peut pas être à Rome. Et il fait son voyage en partant de Plaisance, où il a déjà tenu un concile, où se sont présentés des ambassadeurs de l'empereur byzantin, Alexis Ier Comnène, dont il a levé l'excommunication, Urbain II, excommunication qui avait été fulminée par Grégoire VII contre l'empereur byzantin. Donc, les rapports sont meilleurs, disons. Donc, il décide de se montrer et il fait un voyage. Il fait un voyage, alors c'est un périple qui va durer un an, exactement. Il part de juillet 95 à juillet 96, et le but de ce voyage, le premier but, c'est d'imposer la réforme grégorienne. Enfin, je dis d'imposer, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin...
Non, de chercher à l'imposer.
De faire respecter les règles nouvelles que l'on impose en particulier aux clergés et aux nobles. Et il s'agit essentiellement de faire restituer par les nobles les biens qu'ils ont usurpés auprès du clergé, avec la complicité d'une partie du clergé d'ailleurs, et de réintroduire au sein du clergé une discipline contre ce qu'on appelle les Nicolaïtes, c'est-à-dire ceux qui se marient ou qui ont des concubines, et les simoniaques, c'est-à-dire ceux qui vendent les biens de l'Église ou les sacrements de l'Église. Donc c'est ce qu'il vient régler. Ça, c'est un premier point, c'est la réforme. Deuxièmement, il vient aussi pour favoriser l'établissement de la trêve de Dieu et de la paix de Dieu, qui sont des moments auxquels on impose aux nobles de ne pas se battre, et surtout de ne pas rançonner les paysans. Et la zone qu'il visite... c'est exactement celle dans laquelle la paix de Dieu et la trêve de Dieu se sont largement répandues. Cette zone qu'il visite est aussi une zone qui évite les terres d'empire, parce que l'empereur est en train de soutenir, l'empereur germanique est en train de soutenir...
L'antipape, j'aimerais peut-être pour nos auditeurs que vous expliquiez ce qui est l'antipape et pourquoi, effectivement, notre Urbain II, il n'est pas à Rome.
Oui, l'empereur germanique a fait élire un certain Guibert, qui a pris le nom de Clément III, et qui s'est installé grâce à la soldatesque germanique, qui s'est installé à Rome et qui tient Rome. Donc, Urbain II ne peut pas aller à Rome, il peut pas s'installer
alors
à Rome.
Alors que c'est le pape élu.
Alors, il est élu après l'autre. Parce que les cardinaux disent, mais ce Guibert, là, c'est pas bien, on ne veut pas de lui. Donc Urbain II est élu après et il est considéré, dans la tradition, comme le vrai pape. Et l'autre est considéré comme un antipape dans l'ensemble de la liste des papes. Et donc il vient se montrer dans une région où qui évite les terres d'Empire et les terres du roi de France. Parce que le roi de France est excommunié, étant donné qu'il a répudié sa femme et qu'il s'est marié avec une autre. Donc, c'est très curieux parce que les régions qu'il visite, c'est la vallée du Rhône, une partie de la Bourgogne, puisqu'il va à Cluny, le Poitou, l'Aquitaine, le Languedoc, la Provence. Voilà son
donc
péril.
Donc un choix très politique.
Ah oui, oui, oui.
On est vraiment au sein des conflits politicaux...
Religieux. Il y a ce...
Avec quand même une moralisation, si je peux employer le terme, qui va avoir une grande emprise sur la féodalité.
Oui, oui,
parce qu'on intervient vraiment dans les pratiques du monde féodal, mais notamment, vous l'avez dit, avec la trêve de Dieu, et la paix de Dieu d'abord, et la trêve de Dieu. On ne se chamaille pas pour n'importe quoi, on ne tire pas l'épée pour n'importe quelle raison. Et...
On interdit de se battre pendant 3 jours par semaine, par exemple. Vous voyez, du jeudi au lundi, on ne se bat pas. Enfin, ça, c'est la théorie, hein, mais ça n'a pas toujours été respecté.
Oui, ça n'a pas été immédiat, très certainement. Oui.
Mais et surtout, alors évidemment, il en profite pour suggérer à la noblesse chrétienne d'aller aider l'empereur byzantin. Et c'est là qu'apparaît l'idée de la croisade. Ce fameux appel de Clermont... Oui. Qu'on appelle l'appel de Clermont, qui est une invitation lancée par le pape aux nobles qui se trouvent là, parce qu'il ne s'adresse qu'à une élite quand il vient. Hein, les évêques, les abbés, les clercs, les nobles. Et il les invite à aller dans l'Empire byzantin pour aider l'empereur byzantin. Et il semble qu'il y ait eu aussi à Clermont des ambassadeurs de l'empereur de Byzance qui ont beaucoup exagéré sur les malheurs que les chrétiens subissaient à Jérusalem. Et cette invitation a un succès extraordinaire à Clermont. Dieu le veut, tout le monde se met à hurler. Et c'est là que commence la croisade. On pense que le pape a été un peu surpris du succès de son appel.
Juste une petite question, est-ce qu'on sait dans quelle église à Clermont il s'est adressé à cette assemblée?
On est même sûr que ce n'était pas dans une église, tellement il y avait de monde. Et justement, Marie Sodan propose un emplacement qui se trouve à l'est de la cathédrale actuelle, qui était un grand espace libre où aurait eu lieu cet appel. Oui. Alors, petit détail, je ne sais pas si on a le temps, mais Urbain II est de Languedoy. Oui. À Clermont, on est de Languedoc. Il y a une foule extraordinaire. Il n'y a pas de micro.
Oui.
Comment on fait? Alors, il doit y avoir des traducteurs et des répéteurs qui retransmettent tous les 50 mètres ou les 100 mètres ou 50 mètres ce que dit le pape. Et il faut imaginer ce que peut Mais être le, ce genre
de. L'organisation devait être parfaite parce que l'appel a été complètement entendu.
Ah oui.
Mais est-ce que vous pourriez, est-ce qu'on pourrait évoquer la situation de Toulouse? Parce que ce conflit politico-religieux, je crois, a touché la ville. Au même moment.
Il est venu régler aussi des problèmes d'attribution des biens entre clercs. Et à Toulouse, on est en plein conflit lorsqu'il arrive depuis déjà plus de 15 ans, puisque les clercs qui desservaient Saint-Cernin se sont autoproclamés chanoines, se sont donné une règle, je devrais dire, pour être exact, se sont donné une règle pour éviter que ça ne soit l'évêque qui la leur donne. Parce que si c'était l'évêque qui la leur donnait, il passait un peu sous la coupe de l'évêque. Or, l'évêque avait déjà donné une règle à ses propres clercs. Et à partir du moment où ils ont une règle, ce sont plus des clercs comme ça, ce sont des chanoines. Ils ont une règle à suivre. Et donc, les chanoines de Saint-Cernin ont envoyé une lettre au pape Grégoire VII, signée de l'évêque, en faisant croire donc que c'était l'évêque qui écrivait et qui les autorisait à s'autoproclamer chanoines. Ils ont fait un faux. Et ils ont vécu sur ce faux jusqu'au bout. C'est ce qui leur a permis d'avoir la tutelle et la défense du pape, directement. Ils dépendent du pape. Ce qui fait qu'ils écartent l'évêque. Alors l'évêque est furieux.
Du coup, on ne s'étonne pas que ce soit le pape lui-même qui soit venu consacrer l'église Saint-Cernin. Et le comte, le pouvoir temporel dans tout cela.
Alors, les comtes sont, à l'exception d'un, sont du côté de l'évêque.
Ah.
Pour une raison très simple, c'est qu'eux-mêmes ont des droits sur Saint-Cernin. Donc, ils sont d'accord avec l'évêque qui prétend avoir des droits sur Saint-Cernin. Il y a une question d'argent, parce qu'à Saint-Cernin, il y a de l'argent. Il y a les pèlerins de Saint-Jacques qui laissent des dons, des testaments, etc. Donc, ils ont des droits, aussi bien l'évêque que le comte, et ils font cause commune contre les chanoines de Saint-Cernin. Sauf un, Raymond de Saint-Gilles.
Ah.
Raymond de Saint-Gilles, qui a été désigné comme le chef militaire de la croisade, de la première croisade. C'est lui le chef militaire, hein, à la tête des provinciaux. C'est comme ça qu'on les appelait.
Donc il ne peut rentrer que vraiment dans ce que prône Urbain II.
Et effectivement, il abandonne ses droits Saint-Cernin, ce qui lui permettra ensuite d'obliger l'évêque à faire de même.
Alors, tout ceci ne s'est pas fait sans mal. Est-ce qu'on a un petit peu des détails sur cette guerre picrocholine à l'intérieur?
Oui, parce que l'évêque a été terrible. En 1082, il a mis le séquestre sur les biens des chanoines. Il a confisqué les clés de la crypte et l'accès au tombeau de Saint-Cernin et aux reliques de Saint-Acisque. Et c'est le pape qui l'a obligé à restituer les clés. Et il avait même chassé les chanoines pour les remplacer par des moines de Moissac. Donc, le pape lui a demandé de rechasser les moines de Moissac. Et alors, par la suite, au mois de juillet 96, comme l'évêque, c'était Isarn de Lavaur, comme il continuait à s'entêter, à juste titre d'ailleurs, parce que les autres avaient fait un faux, il est convoqué par le pape à Nîmes, au dernier concile du voyage du pape, il est convoqué dans les appartements du pape, en présence de Raymond de Saint-Gilles, et tous deux lui mettent une pression extraordinaire pour qu'il renonce à ses droits. Et ils arrivent à un compromis, mais il ne sera jamais satisfait de cette situation.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait entrevoir le revers de la médaille de cette très belle cérémonie. Et à la semaine prochaine pour la suite de Saint-Cernin.
Bonne semaine à tous. Et puis toujours le petit livre de M. Pradalier dans toutes les bonnes librairies. 1096, consécration de l'hôtel de Saint-Cernin. Et de Marie Sodan, 1095, l'appel d'Urbain II, cette année-là, à Clermont-Ferrand. Tous ces livres sont aux éditions Midi-Pyrénéennes. Bonne semaine.